Bienvenue à la série Le Monde Change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici, des proches qui témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. On entend de plus en plus parler de l'âgisme, alors qu'il y a à peine quelques décennies, les personnes âgées étaient hautement respectées, considérées et dans bien des cas, consultées. Des croyances et des attitudes envers les personnes âgées, de même que des actions nuisibles, amènent à un mépris fondé sur l'âge. L'âgisme peut prendre plusieurs formes, des blagues, des moqueries, des regards hautains et des gestes de rejet. Le résultat, une discrimination qui vise à exclure les personnes âgées. J'ai rencontré Irène Lapierre, retraitée de l'enseignement et ancienne cadre supérieure, qui nous rappelle qu'il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité.
J'ai travaillé en éducation. J'ai vécu avec mon conjoint 52 ans. Mon conjoint est décédé il y a 10 ans de ça. J'ai demeuré veuve depuis ce temps-là. Je suis mère de 4 garçons et j'ai des petits-fils aussi, 7 petits-fils. C'est comme l'essence de ma vie, là. Je suis rentrée, je pense, dans mon étape de vie qu'on appelle la vieillesse. Pour moi, ce n'est pas dramatique, certain. Je regarde ma vie, c'est comme la somme de ce que c'est que j'ai vécu, l'âge plus mûr. Une étape de vie que j'aime, mais que je connaissais pas, que je l'apprivoise au jour le jour. J'essaie de me maintenir en forme du point de vue cognitif et intellectuel le plus possible.
Vous avez passé toute votre vie ici, aux îles?
J'ai des très bons souvenirs. Je suis la première d'une famille de 6 enfants. Mon enfance a été heureuse. Je suis née en Nouvelle-Écosse. Je suis née dans le temps de la guerre, en 1942. Mon père voulait aller s'enrôler dans l'armée. Ernest Lapierre, lui, il était fils unique de Daniel Lapierre et Ernestine Narvi. Mais il a pas pu à cause de, je sais pas, il avait un doigt qui était croche puis il pouvait pas tirer, je pense. Aux îles, c'était la pauvreté, là, dans le temps de la guerre. Personne n'avait d'argent, tout le monde était dans la pauvreté. Les autres ont déménagé pour aller vivre à Montréal. Puis quand il est revenu aux îles, lui, il avait 12 ans. Mon père a été obligé de partir des îles pour aller gagner sa vie. Puis il a été en Nouvelle-Écosse pour fabriquer des munitions. Parce qu'il y avait des usines de munitions. C'était sa part pour la guerre. Puis ma mère, elle, c'était sa blonde, dans ça là. Fait que elle a déménagé aussi, mais lui, il vivait à Halifax. Puis elle, elle vivait à Westville. Elle gardait une personne âgée. Mon père, il descendait les fêtes de semaine pour aller voir ma mère. C'est du côté de la côte, là, de la Nouvelle-Écosse. Je suis mariée là, puis moi, je suis née là. Quand on est revenu aux îles, ben, j'avais à peu près 2-3 ans. Puis là, ben, elle est allée vivre chez mon grand-père, Daniel, à la Grande Entrée, qui était revenu aux îles lui aussi. Il avait acheté une maison. Fait que comme il était fils unique, on restait ensemble, mon père et son père. On est nés 3 enfants ensemble, un après l'autre. Moi, j'étais la première, après ça, un garçon puis une fille. Puis après ça, il a resté 10 ans, puis il en a eu 3 autres. 2 générations complètes, là. On ressemble pas beaucoup à ceux-là qui sont les plus jeunes. J'ai été heureuse. On avait un bon grand-père, Daniel, c'était un homme extraordinaire. C'est sûr que mon père était gâté, là, parce qu'il était fils unique, puis il s'occupait pas beaucoup des affaires de la maison, puis tu sais, dans ce temps-là, il y avait des grands jardins, il y avait des animaux. Si mon grand-père avait pas été là avec nous autres, je sais pas si mon père s'aurait occupé de tout ça. Fait que ma mère, ça l'a aidé énormément que mon grand-père était là, puis il voyait, puis lui, il a perdu sa femme, elle était jeune, 54 ans. Ça fait que il a sûrement apporté à notre famille beaucoup de sécurité, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Moi, il me berçait pour m'endormir, tu sais, j'avais 2-3 ans, là, puis là, il me berçait, puis moi, quand il arrivait à la dernière marche de l'escalier, il m'ouvrait les yeux. Fait là, il redescendait à me bercer pour me rendormir. C'est des beaux souvenirs. Il allait au grainage, il ramassait, maman faisait des confitures. On manquait de rien, malgré qu'on était pauvres, on manquait pas de nourriture parce qu'il y avait des grands jardins, il y avait des animaux. Maman, c'était une vaillante, elle faisait son bacon, elle faisait tout, là. Il y avait beaucoup de conserves.
que vous avez aimé aller à l'école.
Oui, parce que des études, pour moi, c'était tellement important. Ma maman m'avait donné ça. Elle dit, moi, Irène, j'aurais voulu être un professeur. J'aurais voulu enseigner. Mais elle dit, moi, mes parents ne m'ont pas envoyé aux études, je ne pouvais pas. Mais elle a dit, toi, tu vas y aller. J'ai dit oui, puis je veux y aller. J'avais sauté une année de 7e à 9e. L'année que je devais y aller à l'école normale, c'était à l'école normale chez Gaspard, là, de ça là. Il appelait ça une école normale, je sais pas comment ça se fait, mais il appelait ça de même. Mon père est tombé malade. Fait que là, chez nous, il n'y en avait pas d'argent. Mon grand-père était décédé. Ma mère travaillait pas. Mon père était malade. Ma mère a dit, moi, je suis pas capable de t'envoyer. Elle a dit, on n'a pas d'argent. Ça coûtait 10 piastres par mois. Mais il l'avait pas. Je vois pas. Là, j'ai dit, j'y vais. À 12 ans, j'ai dit à mon père, je vais avec toi, le soleil, il avait une petite camionnette. Il faisait des voyages, là, de temps en temps. J'ai dit, je vais aller avec toi, puis je vais rentrer au couvent, puis je vais reparler à la sœur. Ça fait que, quand il est arrivé là, il a dit, moi, je rentre pas avec toi. Tu vas rentrer là tout seul. Ça me fait rien, je vais y aller. Tape à la porte, la sœur a venu me répondre. J'ai dit, je voudrais parler à la mère supérieure. Elle a dit, oui, je vais te la faire rencontrer. Fait que là, elle m'a fait rentrer, puis j'ai été rencontrer la mère supérieure, puis j'ai dit... Je voulais amener absolument à l'école parce que je voulais me faire instruire, puis je voulais faire professeur. Puis que mon père avait pas d'argent, puis qu'il avait été malade. Elle a dit, ma petite fille, je vais te trouver de l'argent. Elle a dit, monsieur, l'anglais va te donner.
Hormidos, l'anglais.
Ça fait que c'était Hormidos, l'anglais, qui a payé ma première année d'études à l'école normale. Mais c'est sûr que si j'avais pas fait ça.
Et vous faites de la politique après?
Ah ben, mon père s'était ablu. Cet affaire que ça faisait son affaire qu'Hormidos l'anglais me donne l'argent. Il a pas mal parlé d'Hormidos l'anglais après, là. J'ai beaucoup aimé ça, étudier, même si on partait de chez nous au mois de septembre, puis on venait pour les fêtes. On retournait pas chez nous, là. C'était après ça jusqu'à Pâques, puis après ça jusqu'à la fin de l'année. J'ai fait mes brevets, C, puis après ça, moi, je devais revenir à l'école normale pour faire mon brevet B. Ils appelaient ça de même, brevet C, brevet B et brevet A. Ça donnait plus de possibilités d'enseignement supérieur. Ça fait que là, le prêtre de la paroisse, cette année-là, il est venu me trouver, il a dit, « Veux-tu faire une sœur? » Ben, j'ai dit, « J'ai pas vraiment pensé, là, pas encore, là. » Ben, il a dit, « Si t'es pas décidé, là, tu vas enseigner cette année. » Parce qu'il a dit, « Les professeurs qui sont là, ils s'enseignent. » Puis, on veut pas avoir de professeurs enseignants dans une classe. C'était à grande entrée. Ça fait que je suis pas retournée faire mon brevet B. Mais après ça, je les ai fait par cours universitaire, là, qui venait nous donner, à chaque année, ils donnaient des options de cours, puis j'ai terminé mes brevets comme ça.
Et là, vous avez enseigné au primaire, à grande entrée, pendant combien d'années?
J'ai enseigné au primaire 17 ans, puis j'ai été 18 ans à la direction de l'école. La première année que j'ai été à la direction de l'école, je savais pas quoi faire du tout. Organiser mon bureau, quel service j'allais rendre, personne m'a renseigné là-dessus, fait que j'étais toujours rendue dans une classe. J'ai passé ma première année de direction d'école dans les classes des profs. Fait à monsieur, je l'ai appris, là.
On vous avait parachuté, là?
Il manquait des directions d'école. Puis il a fait comme quand j'étais professeur, il a dit, tu vas enseigner. Les directions de la commission scolaire. Moi, après ça, je me disais, je voudrais faire ça à ma retraite, là. Accompagner les directions d'école au début de l'année, puis à la fin de l'année. Quand on a quelqu'un pour nous aider, pour nous guider, pour nous soutenir, surtout les débuts d'année et les fins d'année, ça aide. Ça nous apprend aussi. Parce que c'est pas de quoi qui s'apprend dans les livres. Je peux aller à l'université faire des cours d'administration scolaire, mais c'est pas vraiment ça, la vie de la direction de l'école. Fait que faut quasiment qu'il y ait d'autres personnes qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous orientent.
Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans la profession d'enseignante?
J'aimais beaucoup les enfants, les jeunes, mais je voulais qu'ils utilisent leurs ressources, qu'ils utilisent toutes leurs capacités qu'ils avaient au-dedans d'eux autres. Puis là, moi, je suivais un programme, là. Je suivais pas ça vraiment à la lettre. Je faisais des projets avec les enfants. Puis ils utilisaient leurs capacités dans les projets. Ça pouvait être des bandes dessinées, ça pouvait être un petit journal, ça pouvait être une maquette. Je voyais que chaque enfant avait sa façon d'apprendre, avait son mode d'apprentissage. Ça fait que dans ces projets-là, chacun développait selon sa façon d'apprendre. Et les enfants étaient beaucoup plus intéressés, plus joyeux, plus contents. C'était une classe qui devenait de plus en plus vivante. En somme, c'était l'essentiel de la vie. Puis, quand ça arrivait les examens, là, je me dépêchais à montrer des notions que je pensais que j'avais oublié de montrer pour qu'ils puissent passer leur examen. Mais c'était de même que j'enseignais, j'aurais voulu pas qu'il y aurait eu de l'évaluation comme elle se faisait. Ça aurait été autre chose. Je trouvais ça vraiment terrible de mettre une note 50 pour un enfant. Il avait des possibilités que j'avais pas évaluées puis qu'il saurait jamais qu'il a. Fait que tout changement, ça prend du temps. Ça prend des années et des années parce qu'il y a tout le temps ceux qui veulent rester comme ils sont, puis d'autres qui veulent avancer un peu plus, puis d'autres qui comprennent pas du tout comment ça se fait qu'il y a du changement.
Parlons-en des changements. Comparativement aux autres provinces, le Québec, on semble fort sur les réformes. Et c'est pas toujours vu de façon positive.
C'est la lenteur et les ressources qui n'ont pas été mises en place. Je pense que c'est à cause des ressources et il manque d'argent. Quand ils ont décidé que les enfants avec des difficultés d'apprentissage allaient être intégrés dans les classes ordinaires, c'était quelque chose. Avant, on les avait tous dans nos classes, mais là, ils les avaient sortis. Puis là, ils parlaient de les remettre par rapport aux enfants, puis avec un apprentissage qui était plus avec lesquels ils pouvaient travailler. Mais ça prenait des ressources. Puis il aurait fallu qu'il y aurait eu plus d'orthopédagogues, qu'il y aurait eu plus d'éducatrices spécialisées. C'était aussi les années où ce que on pouvait mieux identifier. Là, on a fait des tiroirs. C'était comme séparé. Puis là, ben, on voulait tout intégrer ces enfants. Les ressources n'ont pas suivi.
Irène Lapierre, si vous le voulez, on va changer de secteur d'activité parce que vous vous êtes intégrée dans différents regroupements au fil des années.
On est sollicité souvent quand on est professeur, quand on est dans l'enseignement ou qu'on a une profession. On est sollicité par d'autres organismes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide. Ça fait que c'est sûr que j'ai fait partie de plusieurs organismes. Pour ma vie aussi personnelle, si tu vis sur une île, tu connais les gens de ton île, faut que tu connaisses qu'est-ce qui se passe dans la société, quels sont les organismes qui interviennent, comment toi tu peux aider dans ces organismes-là, où est-ce que tu vas agir, parce que tout ça a de l'influence sur l'éducation et l'éducation a de l'influence là-dessus. La société que j'ai vue évoluer, mais évoluer à une vitesse vertigineuse. Dans 60 ans de vie, là, j'ai vu le changement qu'il pouvait y avoir il y a 60 ans à aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est comme 300 ans avant dans les changements qu'il peut y avoir eu. Quand t'as parti ta vie, t'avais pas d'électricité, t'avais pas d'eau courante dans ta maison. Puis là, aujourd'hui, que c'est les maisons, c'est clé en main, puis tout est beau là-dedans. Ben, c'est incroyable le changement dans les voitures, dans la façon de vivre, dans les possibilités d'achat. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler, moi, là, comme enseignante, je gagnais 96 pièces par mois en 59. Et puis aujourd'hui, quand tu vois les salaires des enseignants puis les salaires de tout, mais si tu gardes aussi le coût de la vie, ça a augmenté à ce rythme. Mais tous les changements qui s'est produit, qui a un effet sur notre façon de vivre, sur notre bien-être.
Et ces changements-là, vous désirez y participer, y contribuer?
J'ai participé dernièrement à l'étude de M. Léonard Aucoin. J'ai vu dans 10 ans, lui il l'a fait de 2010 à 2020, son étude, il y a eu des énormes changements.
Sur quelle base vous aimeriez voir ces changements se manifester?
On n'est pas une personne humaine toute seule. Ce qu'on est, c'est parce que d'autres ont vécu avant nous autres, ont vécu avec nous autres. C'est tout ce que c'est que les autres m'ont légué qui fait que je suis Irène Lapierre. Fait que je me dis, si moi je fais pas pareil pour leur transmettre, parce que aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants qui vont conseiller nos élus, qui vont conseiller les organismes, puis il y a beaucoup d'organismes autour de nos élus qui les conseillent, qui les appuient, qui créent pour eux autres des programmes ou qui essayent de mettre en place les programmes qui sont créés par le gouvernement. Mais ces personnes-là, il me semble qu'il faudrait faire attention. La façon qu'elles travaillent, ça nuit pas à ce que c'est qu'on veut conserver, à ce que c'est qu'on veut garder comme essence là, pour dire on est encore des insulaires, on est des Acadiens, on a été bâti, qui sait qu'en arrière de nous autres. Fait qu'il y a de quoi à conserver là-dedans, il y a de quoi à protéger et à se battre à tout prix pour le conserver. Mais je vois pas que ça a été identifié vraiment clairement. Les organismes, on dirait qu'ils travaillent comme plus par silo, puis chacun fait son affaire. Ils essayent de communiquer ensemble, mais c'est pas facile. C'est tous des jeunes, la plupart des intervenants, c'est des jeunes qui sortent des universités. Ils sont fougueux, ils sont comme moi quand j'avais 20 ans. Ils veulent passer leurs idées, ils travaillent bien, et ils ont des façons qu'ils ont appris nouvelles de travailler. L'ordinateur, c'est plus précis. Mais je voudrais que l'âme des îles soit conservée. Je pense qu'il faudrait absolument qu'il y ait un travail de fait au conseil de la municipalité pour un portrait des îles qu'on voudrait conserver, qui nous vient de nos ancêtres, qu'on est des insulaires parce qu'on vit sur une île, parce qu'on vit de la pêche, notre économie, c'est saisonnier, pour que ça soit bien identifié, pour dire lesquelles valeurs qu'il faut conserver. Puis les intervenants leur demander d'agir en fonction de ça. Parce que moi, je peux pas penser, une personne qui vient de Montréal, qui a étudié à l'Université du Québec à Montréal, qui a vécu une façon de faire chez eux, va arriver aux îles, puis va être capable d'intervenir pour savoir tout ça et conserver tout ça. Qui va nous dire ça? Ben, c'est les personnes les plus âgées des îles qui vont être capables d'identifier ça. Parce que c'est eux autres qui devraient avoir une conscience encore plus éclairée, encore plus grande de ce qu'ils ont vécu, de qu'est-ce qui devrait être conservé, et puis que ça ferait la majorité qui l'acceptera. Et puis dire, ben regarde, là, tous les intervenants là, autour de la table, là, ici, là, dans tel et tel et tel domaine, et surtout dans le développement social.
Ce que vous nous dites, c'est que là aussi, il y a des changements, mais qui sont ultra rapides, et vous craignez que ces changements occasionnent une perte d'identité, une perte de nos valeurs, qui ont assuré une cohésion sociale, une solidarité. C'est un peuple d'origine acadienne qui a survécu, les Malinois, à nombreuses épreuves grâce à ses valeurs.
À cette rencontre-là de ce monsieur Léonard, là, on était 7 autour d'une table pour faire une petite équipe. Et sur 7, il y en avait 4 de l'extérieur qui intervenaient dans différents organismes. Statut des gens de l'extérieur. J'ai dit, comment vous faites pour vous intégrer aux îles? Ben, il y en a une qui a dit, je suis allée à faire de la mi-carême. J'ai dit, c'est beau faire de la mi-carême. J'ai dit, c'est plaisant. Ben, j'ai dit, sais-tu quel sens a donné à ça? Comment ça se fait que ça a été aux îles de la Madeleine? À peu près rien qu'aux îles ou à quelques endroits dans les provinces maritimes qui font ça, la mi-carême. Ben, j'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, c'est ça l'essence. Aller chercher le pourquoi des actes. Des insulaires, comment ça se fait qu'on a bâti notre vie avec ça? Comment ça se fait qu'on est porté à faire de la musique, puis à chanter, puis à se raconter des contes? Il y a une raison pour ça.
Ces valeurs touchent aussi notre culture, notre façon de nous exprimer. Et c'est d'ailleurs ces mêmes valeurs que les touristes, certains immigrants aussi, disent tant apprécier.
Est-ce qu'ils veulent avoir la même chose? Il faut se trouver des moyens pour les protéger, puis qu'il y aurait des règlements. Juste un exemple, les maisons. Moi, je me rappelle que la publicité pour les îles a commencé, pour le tourisme. On voyait des petites maisons partout. C'était une caractéristique des îles qu'il y avait des belles petites maisons de toutes les couleurs, c'était tout éparpillé.
L'architecture acadienne.
Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas eu de règlement là-dessus. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, n'importe qui peut se construire n'importe quoi quasiment. Si la maison ressemble à une cathédrale, c'est pas grave. Dans les hauteurs, ça, les hauteurs... Il y a des conséquences à ça. L'horizon, elle est plus là, là. S'il y avait eu un règlement, ben, le monsieur ou la madame qui avait une grosse maison à se construire de 700 000 ou d'un million, ben, il aurait été obligé de la réduire d'être comme à peu près les maisons des îles de la Madeleine. Au moins, ne pas altérer le paysage.
Finalement, vous parlez de notre patrimoine, qu'il soit culturel, architectural, social, historique, et j'en passe. Mais c'est ce qui fait aussi notre singularité, notre produit touristique. Alors, il s'agit d'un enjeu majeur auquel il faut s'attaquer.
Puis les jeunes, ils sont conscients de ça. J'aimerais demander aux organismes qui sont là actuellement qu'ils apprennent à référer plus et mieux, et même de façon systématique, avec les personnes aînées, pour aller faire une référence aux personnes âgées, pour aller les consulter, pour aller entendre leur opinion, pour aller entendre leur vision de la vie d'autrefois et d'aujourd'hui, pour les éclairer au même titre que leurs études. Ils savent faire des beaux diagrammes, ils savent faire des beaux tableaux, ils savent faire des belles illustrations. C'est parfait, mais il y a encore trop d'âgistes qui se promènent dans leurs idées, même si c'est pas avoué, mais subtilement. Ah, c'est de la perte de temps. Ah, ils sont pas capables de nous donner de réponses. Ah, ils savent plus. Ils sont dans le passé. Ils ont pas de vision d'avenir. C'est de l'âgisme, ça. C'est ça comme message qui s'en rappelle.
Là-dessus, Irène Lapierre, on va faire une pause avec une chanson que vous désirez nous partager, « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
Vous êtes toujours à la série Le Monde change avec Irène Lapierre. Les changements ne se font pas sentir uniquement sur nos îles, c'est à l'échelle planétaire, à bien des niveaux. Comment percevez-vous l'actualité?
C'est la Terre en général qui est en train de se transformer. Moi, je ne sais pas jusqu'où ça va aller et je ne peux pas prévoir l'avenir non plus. Mais il y a comme un mouvement de changement quasiment dans tous les domaines. Même le plus riche aujourd'hui, il peut se réveiller le lendemain matin puis sa valeur a disparu. C'est sûr qu'il y a de quoi qui est en train de se mettre en place, puis moi je crois que ça va être de quoi pour le mieux. C'est sûr qu'on ne peut pas continuer comme on avait parce que les gens ont eu un réveil sur leurs limites. je pense. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, à tout prix. L'argent, ça a une valeur, mais elle peut pas tout régler.
Est-ce qu'on honore encore la vie?
Moi, je trouve que la vie, c'est un don. Moi, j'ai pas choisi de vivre, j'ai pas choisi ma vie. Ça m'a été donné. Pourquoi je suis née aux Îles-la-Madeleine au lieu qu'en Afrique? Ça m'a été donné. Je n'ai pas un droit d'acquis sur ma vie dans le sens que je peux décider tout pour moi. Si c'est un don, je dois respecter mon don. C'est sûr que en cours de route, il peut y arriver des choses. Et je trouve que le sens de la vie, le respect de la vie, puis on n'a pas tout mis en place pour nous aider à faire ça. Parce que si je prends toute la maladie mentale qui peut s'emparer d'un être humain, et puis les conséquences que ça peut avoir, celui-là qui fait un acte irréversible, ben lui, il a comme pas conscience vraiment de ça. Les autres, ben ça crée beaucoup de problèmes et de peine et d'anxiété. Moi, la grande valeur qui a guidé ma vie et que je vis encore, c'est ma capacité d'aimer. J'étais jeune, j'avais peut-être bien 18 ans. Un jour, j'ai lu un livre. Dans ce livre-là, ça m'a fait découvrir si je passais ma vie puis que j'aurais pas aimé dans ma vie, j'aurais pas essayé d'aimer dans ma vie. C'est pas facile d'aimer dans sa vie. Mais au moins, essayer d'aimer. Pourquoi j'aurais venu sur la terre? J'ai besoin d'aimer puis de me faire aimer. C'est comme l'essence de ma vie. Je peux en vouloir à quelqu'un, mais si j'arrive à y pardonner, j'ai appris à aimer. J'ai essayé un jour d'en parler à mon petit-fils. Puis là, il m'écoutait, qu'est-ce que je disais, là, de cet amour-là, tu sais. Puis j'y parlais des exemples de femmes, là, qu'il commençait à rencontrer. Puis là, il m'écoutait. Il m'a regardé comme il faut dans les yeux, puis il m'a dit, « Grand-mère, et dis-moi, je t'aime de cet amour-là que tu parles. » J'ai dit, « C'est ma plus belle déclaration d'amour que j'ai jamais eue dans ma vie. » J'ai dit, « Je t'en remercie beaucoup. » Si tu me dis ça, ça veut dire que tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Il a dit, « Oui, je comprends. » L'amour, c'est pas nous autres qui a inventé ça. L'amour, tu l'as dans ton cœur. Parce que Dieu t'habite. Moi, je crois à ça. Dieu est amour. Il donne le besoin d'aimer. Puis aimer, c'est exigeant. C'est pas facile. Ta grand-mère, tu ne l'aimes pas tout le temps parce que des fois, elle te dit des affaires que tu voudrais pas entendre. Ben, si tu continues à l'aimer pareil, c'est ça l'amour. C'est continuer à aimer malgré et avec.
Merci à Irène Lapierre. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Ici Michel Landry. On se dit à la semaine prochaine avec une autre histoire. D'ici là, portez-vous bien.